Ne laisse jamais personne te dire qu'il est mieux que toi, Forrest.
Tu es stupide ou quoi?
Maman dit qu'il n'est stupide que la stupidité.
Découvrez sur Quartier des Ondes. Ensemble, trouvons notre place au Clubhouse. Par Pauline Moser.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Quartier des Ondes pour un épisode enregistré d'une façon très différente de l'habitude. Aujourd'hui, je suis avec vous par la voix, mais pas physiquement. C'est une émission entièrement montée, ce qui est une toute nouvelle expérience pour nous tous. De mon côté, ma nouvelle vie d'intervenant père m'appelle sur d'autres terrains et m'impose de faire de nouveaux choix et donc d'être un peu moins présente avec mon équipe du Clubhouse. Mais le terrain, c'est justement le cœur de cette émission. Exceptionnellement, nous ne sommes pas en direct. En mars, pour les sismes, semaine d'information sur la santé mentale, toute l'équipe est sortie de ses murs pour aller à la rencontre du public. En écoutant leurs captations, je ressens une immense fierté. Un grand bravo aux membres, à Mathilde, à Sylvie, à Marc, pour ce travail de pro. Au programme de ce reportage 100% immersif, vous allez découvrir l'allée vert. Nos reporters ont pris le micro-trottoir pour capter la parole des passants à vif. Il y a une conférence gesticulée, l'intervention percutante d'Élodie Jolie-Swab pour « To be or not to be » polaire. La bibliothèque vivante, la transmission précieuse du savoir expérientiel de Claire et son interview. Je vous laisse entre de bonnes mains pour savourer ces pépites sonores. Excellente écoute à tous et encore bravo à toute l'équipe et merci à Well pour sa participation.
Ça, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, je m'entends pas. On est dans la cuisine.
Pour l'émission de radio ?
Ouais. Hein? Oh, ça va, chercher une éponge.
Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, nous nous sommes rendus place du Parlement pour aller à la rencontre des passants, pour recueillir leurs témoignages aux questions suivantes. Quand vous allez mal, vous faites quoi? Que vous apporte l'art? Bonne écoute.
Vous allez pas bien, est-ce qu'il y a des choses que vous faites?
J'en parle beaucoup à mes amis, et puis quand je vais vraiment pas bien, je vais voir ma psy. Ça aide beaucoup. Voilà.
Est-ce que vous pratiquez quelque chose d'artistique? Est-ce que vous êtes sensible à l'art?
Oui, je fais du crochet beaucoup pour me calmer et ça fonctionne plutôt très très bien. Voilà.
Le thème de cette année, c'est pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts. Donc c'est une pratique que vous faites pour vous soulager, pour vous faire du bien, pour vous changer votre état d'esprit.
Ce que je fais quand ça va pas, j'essaie de me donner des petits objectifs à atteindre. J'essaie de m'entourer et de prévenir les personnes positives autour de moi, mes amis, ma famille, et du coup de me dire le matin, essayons de faire un petit pas, mais ça peut être un petit pas tout simple, aller sur le canal Saint-Martin, cueillir 2-3 fleurs, les rapporter, les mettre dans un bouquin. Génial. Chez moi, c'est voilà. Et je suis, la semaine de la santé mentale m'interpelle énormément, je vais vous dire pourquoi. J'ai le temps de vous expliquer pourquoi.
Oui, allez-y, madame.
Parce que finalement, je l'ai caché toute ma vie et je le cache encore. Je suis bipolaire et j'ai 2 enfants. Une fille qui est tombée gravement malade à 18 ans. Ma fille est atteinte de schizophrénie. Et j'ai appris récemment que mon fils de 35 ans, qui travaille, qui a une vie normale à 100%, était aussi atteint de bipolarité. C'est pour ça que je souhaite surtout que mon visage soit pas montré, parce que j'ai travaillé pendant pendant 35 ans et parce que j'ai toujours caché cette bipolarité qui ne se voit pas. Je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de visage, il n'y a pas, quand on a un traitement, quand on est stabilisé, la bipolarité se voit pas.
C'est vrai, c'est important ce que vous dites, c'est vrai.
Ce qui est important aussi, c'est de, d'avoir les bons professionnels autour pour pouvoir, dès qu'on sent que ça ne va pas, pouvoir alerter le médecin qui nous suit, hein, et puis les interlocuteurs, les professionnels, avoir un filet autour. Je le cache pas, hein, il m'est arrivé d'être hospitalisé, hein, mais de pouvoir tout de suite alerter dès qu'on sent des petits signes.
Qu'est-ce que je fais quand ça va mal? C'est-à-dire, ben, je fais du ménage chez moi. C'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Je suis en train de changer, je déplace les meubles et je fais le ménage. Et puis j'ai mon chat qui m'accompagne. Voilà. Oui.
Et est-ce que l'art peut être une solution?
L'art peut être une grande solution. Je lis beaucoup, ce qui est l'art, le théâtre.
Bah, en général, j'évite d'être seule. J'essaie d'en parler à des copines, ou du moins, j'essaie de me changer les idées en sortant un peu avec des copines. Soit je travaille, enfin, le travail artistique, ça m'aide un peu à me canaliser. Ou bah, j'essaie d'avoir une thérapie régulière.
Voilà. Pour vous et pour les autres, qu'est-ce que ça apporte l'art sur sa propre santé mentale?
Bah, en soi, au niveau du... des gestes ou quoi, en fonction des techniques, ça permet déjà en soi de canaliser certaines choses, de faire exploser certaines choses parfois, si on a besoin de faire exploser certaines émotions. Et après, au niveau du travail théorique autour de l'art, ça peut mener à se pencher sur certaines questions dont on n'a pas, sur lesquelles on n'a pas l'habitude de se pencher. Et bah, ça permet aussi d'explorer des zones de soi qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et ça peut être à la fois très... fort, tout comme à la fois ça peut aussi apaiser. Enfin, ça peut réveiller des choses, tout comme ça peut en apaiser. On nous incite tellement peu à prendre soin de notre santé mentale, un peu plus en ce moment, mais on nous incite tellement peu que, bah, il y a des émotions quand elles reviennent ou quand elles ressurgissent, ou des souvenirs ou quoi. Certes, c'est désagréable, mais c'est le début du travail. Je dirais que c'est un autre langage. Et que donc, ouais, se servir de ces autres langages pour exprimer ce qu'on n'arrive pas forcément à exprimer à des mots ou à des gens, ça peut aider.
Merci à ces passants de s'être prêtés au jeu de cette interview qui n'est pas chose facile.
Merci aux membres d'être allés au contact des passants pour notre Aller Vers dans le cadre de la CISM. Merci à Hélène d'avoir présenté ce reportage. Maintenant, passons à notre chronique anti-cliché. Je laisse la parole à Mylène.
Il y a des phrases qui ont la vie dure. La bipolarité, c'est juste des sautes d'humeur. Tout le monde est un peu bipolaire. On l'entend à la machine à café, sur les réseaux, parfois un peu à la bouche de gens bien intentionnés. Une manière de banaliser, peut-être pour rendre la chose moins inquiétante. Mais à force de simplifier, on finit surtout par déformer. D'abord, parlons de fameuses sautes d'humeur. Oui, tout le monde connaît des journées où on passe de l'enthousiasme à l'agacement. Du rire à la fatigue, c'est humain, même sain. Mais réduire la bipolarité à cela, c'est comme dire qu'un ouragan, c'est juste un peu de vent. Dans les troubles bipolaires, on ne parle pas de variations ordinaires, mais d'épisodes marqués, dépressifs ou maniaques. Mais réduire la bipolarité à cela, c'est comme dire qu'un ouragan, c'est juste un peu de vent. Dans le trouble bipolaire, on ne parle pas de variations ordinaires, mais des épisodes marqués, dépressifs ou maniaques, qui peuvent durer des jours, des semaines, parfois davantage, et qui bouleversent profondément la perception, l'énergie, le comportement et la vie quotidienne. La manie, par exemple, n'a rien d'un simple coup de boost. Elle peut entraîner une euphorie intense, une sensation de toute puissance et une diminution drastique des besoins de sommeil. Des décisions impulsives aux conséquences lourdes. À l'inverse, les phases dépressives ne résument pas à avoir un coup de blues. Elle peut engloutir toute motivation, de joie, de rendre les gestes les plus simples insurmontables. Que dire ? Tout le monde est un peu bipolaire ? C'est donc effacer la réalité de celles et ceux qui vivent avec ce trouble ? C'est aussi l'invisibiliser, la difficulté du diagnostic, la nécessité d'un suivi médical et le travail quotidien pour stabiliser une vie qui, sans aide, peut devenir chaotique. Après le cliché, il y a un risque, celui de ne pas prendre au sérieux une maladie réelle.
Toujours sur Quartier des Ondes, merci à Mylène pour cette chronique anti-cliché. Passons à notre reportage sur notre bibliothèque vivante où 9 membres se sont prêtés au jeu. En effet, une bibliothèque vivante permet de rencontrer des livres humains et d'écouter leur parcours de vie, favorisant le dialogue et la compréhension. Nous avons eu le plaisir d'être accueillis par les Champs Libres dans le cadre de la SISM et du festival Nos Futurs. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Claire.
Donc je me présente devant toi, la tête haute et le regard fier, pour te parler de ma santé mentale. Je suis impressionnée, mais l'envie de témoigner est plus forte et me donne du courage et de l'énergie afin de vous faire découvrir ce que je suis, ce que je fuis, ce que je vis. Il s'agit nullement d'un monologue. Vous êtes acteur aussi, tu es acteur aussi, actrice, pardon, dans ce moment partagé. Tu pourras intervenir et faire des commentaires pour poser des questions au cours de mon récit, que j'ai articulé autour de 4 thèmes, le fil rouge étant toujours ma santé mentale et mes troubles. Ma vie d'enfant et d'adolescente. Comme tous les autres enfants, je jouais dans la cour, à l'élastique, aux billes, à la balle. Comme tous les ados, je sortais avec mes copines et je m'intéressais aux garçons. Mais derrière cette insouciance se cachait un regard grave et une forte anxiété dans les situations nouvelles. J'ai pris 2 exemples complètement différents. J'ai un souvenir de toute petite, que j'ai commencé en moyenne section dans une école en plein milieu d'année et que je me revois encore toute seule avec tous les enfants qui me regardaient. Alors j'ai peut-être amplifié le ressenti, mais ces choses-là m'angoissaient fortement. Et ce qui m'angoissait aussi, c'était les cours où j'étais pas à l'aise, notamment tout ce qui était technique, dessin, EMT, techno, tout ça, ça pouvait me rendre malade. Voilà. À 7 ans, j'ai perdu mon grand-père maternel et ma grand-mère paternelle. Et j'ai compris, tout d'un coup comme ça, qu'on était mortels. Et là, j'ai commencé à déclencher des phobies. Donc la première phobie que j'ai eue, c'est la phobie de m'empoisonner. Impossible de me faire manger un yaourt ou un aliment qui avait une date de préemption dépassée. Ensuite, j'ai eu peur de m'endormir, parce que mourir dans mon sommeil, ça me faisait peur. Du coup, j'avais beaucoup de mal à m'endormir, et j'appelais mes parents du fond de ma chambre, et comme ils réagissaient pas comme je voulais, du coup, j'allais dormir souvent dans le couloir collé à leur chambre. Ma dernière phobie, qui me tient encore un peu, là, c'est la claustrophobie. J'ai beaucoup de mal à être enfermée. Je travaille, mais ça reste comme ça. Mes parents ne m'ont jamais emmené chez un psy. C'était plutôt « débrouille-toi avec tes angoisses ». J'ai même eu droit une fois à une douche froide. Mais avaient-ils compris mes troubles ? Sincèrement, j'en doute. Ils avaient d'autres pour priorité. Et pourtant, j'ai pas reçu une éducation stricte, plutôt permissive, libérale, après post-68. Parallèlement, j'ai été témoin de beaucoup de situations d'adultes traumatisantes pour un enfant, dû à un choix de vie de mes parents d'avoir un autre partenaire dans leur vie. J'ai grandi avec cette fragilité psychologique, compensé par une joie de vivre, surtout dans les périodes lycée et faculté. Est-ce que tu quelque chose que tu voudrais rajouter ou
des questions du coup, t'as parlé du fait que les parents ne comprennent pas ou ont vraiment une très grande distance sur déjà le terme de trouble, d'angoisse, tout ça. Moi, la question, c'est est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé à un moment donné? Ou est-ce qu'on est toujours au même, sur le même niveau par rapport à ça?
Ma maman, elle a évolué avec les années. Et c'est vrai que elle a une autre image. À l'époque, les psys voulaient pas entendre parler. C'était vraiment. Et maintenant, elle a une autre image, mais ça reste un peu difficile pour elle d'accepter de. Maman, elle dit, ça sert à rien de remuer le passé. De toute façon, c'est fait, quoi. Donc, mais là, elle est beaucoup. Tu vas voir la suite de mon témoignage. Au jour d'aujourd'hui, avec les troubles que j'ai, elle m'accompagne beaucoup. Elle m'entoure beaucoup. D'ailleurs, elle est présente là aujourd'hui. Et mais par rapport à ce sujet psychologique, je crois qu'elle avait, elle a pas compris quoi. Je crois pas qu'il comprenait à l'époque.
Mais selon toi, elle-même, est-ce qu'elle, enfin, est-ce que pour toi, ça, elle devrait peut-être avoir un suivi psychologique, ou est-ce que tu penses que c'est rédhibitoire pour elle par peur, par appréhension, ou juste parce que c'était pas commun?
Bah, moi, je pense que ma mère, elle mériterait un suivi psychologique, mais que elle a toujours vécu un peu dans le déni, elle est un peu dissociée. Et je pense qu'elle, et qu'elle s'en sort comme ça, donc, je pense que, elle, voilà. Mais elle a évolué un peu, et là, depuis peu, elle s'est mise à fréquenter les associations d'aidants. Donc, elle voit des psys, plutôt pour des questions générales, mais pour elle-même, elle n'est pas encore prête, hein.
Ok, d'accord.
Et comme elle a 80 ans, je pense qu'elle le sera plus. Mais voilà, avec ma fille, on pense que il y a de l'hérédité quand même dans toutes ces angoisses-là. Alors, après, on va passer à ma vie amoureuse et ma vie de mère. J'ai rencontré mon compagnon à la fac. J'avais 18 ans, j'en ai 57. On est toujours ensemble. On avait tous les deux une enfance cabossée. On voulait trois enfants, avec trois ans d'écart à chaque fois. Donc, j'ai eu trois enfants en 6 ans. C'était un peu sportif. La charge mentale était assez importante, surtout pour un profil anxieux comme le mien. Donc c'est le début de période de dépression. J'allais souvent de 1 mois à 3 mois, de crise d'angoisse. J'ai eu assez tard les crises d'angoisse. Puis la prise de médicaments, naturelle dans un premier temps, puisque je suis plutôt accro aux plantes qu'aux anxiolytiques, mais j'ai pas eu le choix. Après j'ai fini par prendre les antidépresseurs et toute la clique de tout ça. Donc la charge mentale, elle était couplée avec mon travail aussi. Hein. Voilà. Malgré tout, j'étais heureuse, j'avançais parce qu'on avait un équilibre familial, chose qu'on n'avait pas eu quand on était jeunes tous les deux, et qu'on était contents et fiers d'avoir fait une famille. Voilà pour la partie.
Grâce à ton compagnon, c'était plus simple, ou est-ce que tu as pu trouver ce que tu n'avais pas avec tes parents? Justement, dans ce cadre de soutien, ou au moins de compréhension des angoisses.
Alors, je pense que tous les deux, on était impactés par les angoisses. Moi, par les miennes, lui, par celles de sa mère. Et on s'est plutôt soutenus. C'est-à-dire qu'au début, et ça, il le dit souvent, au début... peut-être dans le guidon, il s'est pas rendu compte. C'est maintenant qu'il se rend compte. Maintenant que voilà, il y a un nouveau diagnostic, voilà. Bah, d'accélérer, j'ai pas vu le temps passer moi. Alors, je vais te parler de ma vie de fonctionnaire territorial, ou alors je vais passer directement. Il reste 5 minutes.
Ça fait déjà 20 minutes.
Ouais. Donc je vais passer directement à ma vie, ce que j'ai appelé ma vie de malade mental. Il y a 20 ans, les premiers diagnostics s'orientaient vers un trouble anxio-dépressif. Puis quand je m'arrête en 2022, le psychiatre diagnostique une dépression sévère. Pour info, je suis suivie par des psychologues et des psys depuis 25 ans. J'ai tout essayé, hypnose, EMDR, TTC, thérapie, acte engagement, enfin tout. Au début de mon arrêt en 2022, l'objectif était de récupérer et de retrouver du travail. Mais les choses ne sont pas passées du tout comme je voulais. Les attaques de panique, les angoisses ont commencé à être de plus en plus fréquentes. Jusqu'à ce fameux jour de 20 février 2024, où j'ai perdu les pédales. J'appelais ça une décompensation. Je ne savais plus qui j'étais, comment je m'appelais. Mon mari m'a emmenée à l'hôpital. Je suis restée 3 mois. Et au bout de 3 semaines, on m'a diagnostiqué bipolaire. Apparemment, j'avais fait une phase de décompensation. Et c'était s'ensuit voilà. Le médecin m'explique que j'ai subi une phase de décompensation qui succède à une phase dite haute. Mais moi, je connaissais pas du tout tous ces termes. Il faut que je me les approprie. Même maintenant, c'est encore compliqué. C'est une période de ma vie qui s'apparente à un traumatisme. 3 mois d'hospice, J'ai beaucoup de mal à accepter cette situation de malade. J'ai régulièrement des phases basses. Je suis en proie cycliquement à des pensées obsessionnelles, ruminations, paniques qui me mettent dans des états de détresse qui paralysent mes projets. Depuis 2022, je suis suivie par le CMP, mais le feeling ne passait plus. Donc j'ai retrouvé un nouveau psychiatre qui accepte de re-questionner mes traitements et qui a autour de lui des infirmières qui font des ateliers thérapeutiques. Donc ça me permet vraiment de retrouver aussi un peu de confiance. J'ai testé beaucoup de médicaments, ça fait beaucoup d'effets indésirables et ça me plaît moyen quand même. Et depuis mars 2025, je suis membre du Clubhouse. Je sais pas si tu as vu les... Voilà. Et là, je retrouve confiance. On est bien entouré, on fait des projets, on vit des choses très belles, comme c'est aujourd'hui de témoigner devant toi. Actuellement, je dirais que je suis en phase d'acceptation. La phase de stabilisation est en cours. Bientôt, la phase de reconstruction. Merci de m'avoir écouté.
C'était un plaisir. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais une question qui me taraude, c'est si tu devais te revoir petite et sachant tout ce qui s'est passé, sachant tous les aléas de la vie, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce qui serait rédhibitoire aujourd'hui, que ce soit n'importe quel parcours de vie dans le cadre personnel ou professionnel.
Écouter, en fin de compte, c'est ça qui s'est passé, d'être écouté, d'être entouré par des professionnels, d'avoir. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle même où ça s'est passé. J'ai dû faire de l'EMDR pour l'enlever. Quand j'ai appris qu'on allait tous mourir, c'est ça qui m'a déclenché des angoisses. Et mes parents, ils l'ont pas pris au sérieux, quoi. Ils se sont dit, ils ont dû me répondre, oui, on meurt, quoi. Et moi, ça m'a, voilà. Je pense que c'est une meilleure écoute. Et ils étaient pris dans leur situation. Chacun avait, mes parents, ils avaient une période de liberté sexuelle. Donc, ils avaient des préoccupations autres que moi et ils m'ont un peu oublié, je pense. Mais je leur en veux pas. Ça sert à rien de culpabiliser. Je pense que j'ai vécu dans un environnement insécure. Et du coup, j'ai tenu parce que j'avais une force quand même quelque part pour créer une famille, pour avoir un boulot, un job avec des responsabilités. C'est ce que j'avais. Un job avec des responsabilités. Mais tout s'est cassé la gueule. Voilà.
Super. Merci déjà pour ces réponses. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions encore. Si on a encore du temps. Mais oui, du coup, être entouré de bien... Alors, si j'ai une question, du coup, comment on parle ? Comment on parle ou comment parler de ce qui nous angoisse ? Comment faire comprendre ? Est-ce que c'est notre responsabilité ou est-ce que c'est nécessairement à celui qui écoute de faire l'effort ?
Je pense que c'est un chemin à partager, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'écoute. Tout le monde ne l'est pas. Une empathie, d'écouter la personne et il faut pas se tromper de personne non plus parce qu'il y a des personnes qui sont pas capables de l'entendre de par leur passé, de par ce qui s'enferme et tout, donc c'est toujours compliqué. C'est pour ça qu'il y a des professionnels, il y a de plus en plus d'endroits comme le Clubhouse, comme Medipsy, faut vraiment aller vers des professionnels parce que c'est après la bonne copine ou le bon copain, ça peut marcher, mais je pense que les professionnels c'est mieux quoi.
Est-ce que tu peux nous dire ce que ça te fait vivre d'être libre aujourd'hui au Champ Libre ?
Écoute, c'est une super expérience. Pour l'instant, je trouve les gens très réceptifs, très empathiques. Et moi, je me suis comme un poisson dans l'eau, là.
Et ça te fait... toi, ça t'apporte quoi, personnellement ?
Déjà, d'avoir déroulé, parce que j'ai tout déroulé depuis l'enfance jusqu'à maintenant. De voir encore que certains passages, quand tu me parles de mes troubles et de l'hospitalisation, ça me fait encore vibrer, là, complètement. Et puis, non, c'est chouette. Je trouve ça très chouette. J'ai pas grand chose à dire de plus.
Merci beaucoup à nos membres qui se sont prêtés au jeu de la bibliothèque vivante. Vous avez écouté le témoignage de Claire. C'était intense de les voir toute une journée se donner à fond, se livrer. Ça a été un grand plaisir pour moi de les accompagner. Après cette belle chronique touchante, je laisse la parole à Corentin pour la culture du miam pour l'esprit.
Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous partager mon expérience du théâtre et de son impact sur mon quotidien. On le sait, cette activité aide à être à l'aise avec son corps, sa capacité à communiquer, à faire, face au regard des autres. Petit, j'ai eu la chance de participer à la création de plusieurs spectacles, comme Le Roman de Renard, un classique pour enfants, ou plus original, du théâtre turc, le Karakoz, inscrit tout de même au patrimoine de l'humanité, qui se présente sous forme d'ombre ou des silhouettes appelées tasvir, fabriquées à partir de peau animale à l'origine, mais bien sûr nous utilisions des matériaux plus simples comme le plastique, que nous projetions grâce à une lampe sur un grand drap blanc. Un grand merci d'ailleurs au Théâtre des Tréteaux, car il ne faut jamais se limiter dans la gratitude qu'on éprouve. Puis le temps est passé et l'arrivée dans l'âge adulte m'en a éloigné. 20 ans plus tard, ma vie est devenue de plus en plus compliquée et après une longue période d'isolement, quoi de mieux que le théâtre pour réapprendre à être, à interagir avec les autres. Il est souvent plus facile de passer par des personnages pour arriver à exprimer ses émotions. On se surprend alors à lâcher la bride émotionnelle, à faire rire ou même pleurer son auditoire. Bien sûr, il existe plusieurs formes de théâtre et même si je suis content de présenter notre travail lors d'un spectacle un peu politique cette année, mon trouble fait que je n'éprouve plus le plaisir d'une réussite qui est souvent relative voire absente dans ma tête. En réalité, c'est un peu triste. Mais je vais plus le... Je vais plus le faire pour le reste de la troupe que pour moi. Mais, et c'est à ce niveau qu'il faut prendre du recul, ce n'est pas dramatique. Il faut du temps au temps. Et la solution est là, le théâtre d'improvisation. Sans spectacle, mais où le jeu d'acteur est au centre et m'apprendra, j'en suis sûr, à gérer l'imprévu, l'adaptabilité, un rapport aux autres plus instinctif en somme, et surtout avec un cadre sans limite, où seul le lâcher prise, l'écoute pleine et entière peut révéler des merveilles, des émotions partagées qui n'ont pas été imposées et prennent au final une valeur toute particulière. En somme, il existe plein de manières de s'exprimer, et j'espère que ce témoignage vous en donnera l'envie, quelle qu'en soit la forme, jeu d'acteur, écrit, dessin, capsule sonore. Et même si vous êtes seul, terrifié du rapport social, il existe quelque part un lieu où vous vous sentirez bien et où vous vous surprendrez à faire vivre l'émotion autour de vous. Merci.
Merci Corentin pour ce témoignage sur ces cours de théâtre d'impro que tu suis en complémentarité de tout ce que tu as mis en place dans ton parcours de rétablissement. Merci pour ce riche témoignage. Et on va passer à notre dernier reportage de l'ASSISM. C'est la conférence gesticulée qui a eu lieu au BAM. Je laisse la parole à Ludovic.
Merci à Quartier des Ondes de nous accueillir. Nous avons eu le plaisir d'organiser avec l'UNAFAM, le Clubhouse Bipole 35, et bien sûr Elodie, une conférence gesticulée consacrée aux troubles bipolaires. Alors, une conférence gesticulée, c'est une forme de spectacle à mi-chemin entre une conférence et du théâtre, en mêlant des savoirs théoriques, un récit personnel vécu, et aussi une mise en scène avec de l'émotion et de l'humour. C'est une conférence incarnée.
Je suis avec Elodie qui va nous faire la conférence gesticulée ce soir. Et c'est un grand honneur pour nous de l'accueillir. Et puis on a plein de monde, plus de 130 personnes, ça va être un beau moment. Elodie, comment t'es venue l'idée de cette conférence gesticulée ?
C'est mon histoire de vie qui a été difficile. Et du coup, j'avais besoin d'en parler. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen artistique de transcender la souffrance, le parcours chaotique en quelque chose de créatif.
Ça t'a apporté pour ta santé mentale ? Ça a été un outil de reconstruction aussi ? ou d'apaisement, en tout cas, si je comprends bien.
Oui, c'est sûr, ça m'a donné beaucoup d'occasions de mieux me connaître, de plus accepter mon chemin et mon parcours, et ça m'a permis une certaine résilience, j'ai envie de dire.
Super. Et donc, du coup, ça fait combien de temps qu'elle existe, cette conférence gesticulée ?
Je me suis formée fin 2019 et en 2020, la conférence sortait.
Super, donc c'est assez récent. Tu l'as jouée combien de fois depuis que tu l'as créée ?
Je pense que j'en suis presque à 70.
Bravo, t'as du succès, c'est chouette. Comment toi tu vis et t'accueilles ce succès, peut-être auquel, je sais pas, tu t'attendais peut-être pas. On entend une cause intérieure, une motivation d'abord pour toi, mais du coup le public est là pour t'écouter. Comment toi tu réceptionnes ce que le public te rend?
Je me sens hyper honorée en fait de que mon chemin, mon parcours aussi singulier soit-il, fasse écho à d'autres, permette à d'autres d'y voir de l'espoir, j'espère en tout cas. Et ça me touche. Et par rapport à accueillir un succès, alors là c'est vraiment, je suis dans une tournée bretonne et c'est la deuxième date où j'ai autant de monde. Je suis impressionnée et touchée. C'est de la joie, mais surtout que je me sens à ma place en fait, malgré le parcours chaotique qui m'a fait perdre beaucoup de confiance en moi. Pour le coup, là, même si des fois je manque de confiance en moi, je me sens à ma place.
Donc un bel outil de rétablissement. Et où est-ce qu'on peut apprendre à faire, tu dis que tu t'es formée, où est-ce qu'on peut apprendre cette technique de conférence?
Alors moi, je me suis formée à l'université gesticulante du Clapas vers Montpellier, mais ici à l'Ardeur dans la Bretagne, donc il y a vraiment plusieurs lieux d'éducation populaire qui forment à cet outil-là.
Pour toi, c'est quoi le plus gros avantage? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est une conférence gesticulée d'ailleurs, parce qu'on parle de ça comme une évidence, mais en quelques mots, et c'est quoi son... Alors moi j'ai écouté celle de Yannick, hein, qui est le président de Bipol, mais pour toi c'est quoi la plus grande force de cette forme d'expression?
C'est déjà de permettre à une personne lambda, un citoyen lambda, qui n'est pas forcément bac plus 10 dans un domaine, de prendre la parole sur l'espace public pour amener des sujets qui peuvent être contradictoires, avec des contradictions, du conflit social, etc. Et ce qui peut être, pour moi, qui est chouette, c'est que c'est un mélange de vécu et de théorie. C'est pas que de la théorie comme une conférence classique, et du coup, il y a énormément de moi dans cette conférence. Il n'y a que moi qui peux la dire, parce qu'il n'y a que moi qui ai vécu ça, dans cette forme-là, évidemment. Et ce qui m'a plu, c'est aussi le versant où on peut être un petit peu créatif, amené de soi. Là, moi, j'amène un peu de musique, un peu, enfin voilà, vous découvrirez ce soir.
Eh bien, avec grand plaisir, et puis merci d'avoir pris le temps de cette interview. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot?
Merci beaucoup de votre accueil si chaleureux, je suis vraiment très touchée.
Merci à toi, Élodie, à plus tard.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Bravo à tous les membres. Bravo à Mathilde, à Sylvie. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre miam pour l'esprit. Et à très vite sur Quartier des Ondes pour notre prochaine émission qui sera pour la coup la dernière de la saison. Ensemble, trouvons notre place au Clubhouse. À très vite.